Alors on est avec Alexis Speer qui publie « Étranger à la carte, l'administration de l'immigration en France de 1945 à 1975 ». C'est publié aux éditions Grasset. Alexis Speer, parmi les militants de la cause de l'immigration et des mouvements de sans-papiers, on dit et on se plaît à dire que depuis 50 ans, grosso modo, depuis 60 ans bientôt, depuis 1945, la situation juridique et administrative qui est réservée aux étrangers résidant en France s'aggrave sans cesse. Est-ce que c'est un constat qu'avec la perspective historique que vous avez pu avoir à travers votre travail, vous allez dans ce sens-là ou est-ce que ça mérite d'être discuté?
Non, je crois que ça c'est un point qui est incontestable, c'est que alors si on reprend sur la longue période justement, cette période de 45 à 75 est particulière en ce sens que c'est l'administration qui mène la politique d'immigration. Ceci dit, ce qu'on peut dire c'est que depuis le début des années 80, il y a une politisation de l'immigration qui est devenue un enjeu politique majeur, un clivage entre la droite et la gauche, un objet de législatif permanent, j'ai envie de dire, puisque pour vous donner un ordre de grandeur, entre 45 et 1980, l'ordonnance du 2 novembre sur l'entrée et le séjour est restée inchangée. Et si on prend maintenant la période de 1980 à aujourd'hui, elle a été modifiée plus de 27 fois. C'est vous dire s'il y a un contraste entre les deux périodes. Alors, c'est un contraste qui n'est pas seulement formel dans la manière de gérer l'immigration, c'est aussi un contraste qui s'est traduit, comme vous le dites, c'est incontestable, par un durcissement toujours plus important des conditions juridiques d'entrée et de séjour en France. Et là, de ce point de vue-là, il y a une image qui avait été utilisée par Daniel Lochak dans un de ses ouvrages, qui est extrêmement parlante. C'est l'image du balancier tronqué. Qu'est-ce qui se passe? C'est que à partir de 1980, les gouvernements successifs vont légiférer sur l'immigration. Il va y avoir toute une série d'alternances où la droite va légiférer, puis la gauche revient au pouvoir et elle légifère de nouveau, etc. Et donc il y a véritablement un balancier droite-gauche sur ces questions d'immigration. Et ceci, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un balancier tronqué en ce sens que la droite instaure des mesures répressives, restrictives, et que la gauche, quand elle revient au pouvoir, défait une partie de ces mesures, mais jamais complètement. Et donc, il y a toujours une partie des mesures restrictives qui ont été, imposées par les gouvernements de droite qui restent, qui se sédimentent, et le résultat de 25 ans de ce mouvement de balancier tronqué nous amène à la période contemporaine où, tout à l'heure j'ai parlé du flou du droit et des zones d'incertitude. Dans la législation actuelle sur l'entrée et le séjour des étrangers en France, il n'y a plus beaucoup de flou, il n'y a plus beaucoup de zones d'incertitude. En revanche, on a le sentiment plutôt que la plupart des possibilités, disons, qui restaient aux étrangers d'accéder au territoire ou d'être régularisés ont été progressivement fermées par le législateur.
Alors un des éléments qui nous intéresserait de voir la pertinence, l'impact, c'est l'apparition à la fois de la question de l'immigration comme une question politique, mais y compris l'apparition de militants pro-immigrés, de défense des droits des immigrés, de tout un tas de structures qui vont se mettre en place, qui existent encore aujourd'hui. Qu'est-ce que ça modifie dans le rapport de cette administration que vous avez étudié, de l'administration de l'immigration en France? Qu'est-ce que ça va modifier dans leur rapport à... d'un seul coup, ça devient un jeu à trois. Il n'y a plus les immigrés, l'administration, il y a les immigrés, la société civile, entre guillemets, et l'administration. Qu'est-ce que ça change?
Alors, ça va changer beaucoup de choses. En fait, si on reprend la chronologie, c'est essentiellement dans la suite du mouvement de 68, en fait, et de tout ce foisonnement politique qui a émergé à cette période-là, que la question de l'immigration est devenue un objet politique où, disons, l'extrême gauche à cette époque-là a vu dans le travailleur immigré finalement la figure du prolétaire à défendre, la figure du prolétaire avec laquelle se solidariser, etc., etc. Alors, dans un premier temps, c'était un combat social. C'est finalement très progressivement et après plusieurs années que c'est petit à petit on s'est placé sur non plus sur le seul terrain social mais aussi sur le terrain juridique. de ce point de vue-là, il va y avoir un glissement avec l'émergence d'associations qui, petit à petit, alors dans le sillage de ce qui s'est fait aussi par rapport aux prisons, vont se tourner vers la question du droit et la question de la défense des droits et la question de la mobilisation du droit comme un outil de revendication ou en tout cas un outil politique. Là, évidemment, on pense à une association comme le GISTI, le groupe d'initiative et de soutien des travailleurs immigrés, qui est créé en 1972 et qui va d'une certaine manière, en tout cas, initier une nouvelle manière de se solidariser avec les étrangers. Je dis, enfin, c'est l'une parmi d'autres, parce qu'en fait, il y en a beaucoup d'autres. On peut penser, alors, qui sont plus anciennes, et puis d'autres qui vont émerger. On peut penser à la CIMADE, on peut penser aussi à tous les collectifs et toutes les associations qui vont petit à petit faire du droit des étrangers, ou en tout cas se réapproprier le droit des étrangers. Donc ça, c'est le premier mouvement. Et puis, alors, dans ce sillage-là, du même coup, il va y avoir pas seulement des militants, aussi des professionnels du droit, des avocats en l'occurrence, qui vont eux aussi du même coup voir dans cette question-là aussi une manière de faire du droit et de faire avancer le droit. Ça va avoir alors disons plusieurs impacts, mais l'impact le plus significatif et le plus visible, c'est que petit à petit l'administration ne va plus être effectivement la seule à encadrer l'immigration, et elle va être davantage contrôlée, j'ai envie de dire. Alors contrôlée pas seulement au quotidien au guichet des préfectures, parce que les associations ont jamais eu les forces politiques pour contrôler ce qui est fait au quotidien des préfectures, mais en revanche, en termes de recours et en termes de mobilisation et de développement du contentieux administratif, petit à petit, un nouvel acteur va aussi apparaître sur cette scène-là, la scène de la politique migratoire, c'est le juge administratif. Et petit à petit, il va y avoir un développement des recours types qui vont considérablement modifier la marge de manœuvre de l'administration, qui est plus en mesure de mettre en œuvre un pouvoir discrétionnaire dans une sorte de huis clos avec les étrangers, mais qui non seulement doit composer avec des associations, avec des partis politiques qui considèrent l'immigration comme un enjeu majeur, mais aussi avec la possibilité d'être attaqué par voie de recours et d'être condamné éventuellement par le juge administratif, par le tribunal administratif. Et là, c'est à partir du milieu des années 70, tout un pan de la politique d'immigration qui va bouger par ce mécanisme-là.
Alors les juges administratifs statuent, si je me trompe pas, sur le maintien en rétention, c'est les séances au 35 bis, ou pour les maintiens en zone d'attente, ça c'est le 35 quater pour les demandeurs d'asile, si je me trompe pas, c'est leur pouvoir.
Pas seulement, hein, c'est le par définition, le juge administratif, il est susceptible de statuer sur tous les actes de l'administration, tous les actes produits par l'administration qui sont attaqués par des usagers, en l'occurrence les étrangers. Alors les exemples que vous citez, c'est les exemples les plus significatifs qu'on a en tête aujourd'hui, mais ça peut être aussi sur des refus de titre de séjour, ça peut être sur un certain nombre de mesures. C'est vrai que les plus significatives aujourd'hui, c'est sur la question de la rétention et de l'éloignement.
Mais l'apparition de ce tribunal administratif, ça correspond à, c'est le résultat d'une mobilisation, c'est le résultat d'une lutte pour qu'il y ait plus de droits, ou comment ça émerge?
Les tribunaux administratifs en France, ils sont très anciens, ils datent du début des années 50. Simplement, ce qu'on observe pendant la période que j'ai étudiée, c'est-à-dire de 45 à 75, c'est que les étrangers n'ont absolument pas les ressources juridiques, linguistiques, culturelles pour faire des recours seuls et pour mobiliser ce droit particulier qui est extrêmement technique, hein, qui est extrêmement difficile d'accès. Et petit à petit, en fait, c'est par le biais de mobilisation de professionnels du droit que cet outil va apparaître, et que les étrangers vont pouvoir se saisir des tribunaux administratifs qui existaient avant, mais encore une fois, dont ils se saisissaient pas véritablement, ou en tout cas pas massivement. Et là, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que le contentieux des étrangers, alors si vous prenez, par exemple, pour la période contemporaine, si on prend l'ensemble du contentieux administratif en France, le contentieux des étrangers, en particulier si on y intègre la reconduite à la frontière, ça représente entre 30 et 40% du contentieux général, ce qui est énorme. Si vous considérez la part de, ce que représente véritablement la population étrangère dans l'ensemble de la population française, c'est vous dire si ce contentieux il s'est développé, il a pris de l'ampleur au terme de ce mouvement-là, de ce mouvement de mobilisation à la fois de professionnels du droit, de militants qui se sont emparés de ces questions-là et qui se sont familiarisés avec l'outil juridique qui pendant très longtemps n'était pas considéré comme un outil politique. Les militants considéraient que le droit, c'était si on reprend la vieille formule de 68, hein, le droit bourgeois et la ligne des enculeurs du peuple, c'est vous dire que dans quel statut le droit était tenu.
Le droit bourgeois
et la vaseline des enculeurs du peuple, c'est ça, le grand 68.
Mais les militants, c'est pas facile de rebondir. Les militants sont focalisés sur l'aide au retour ou enfin du moins pour empêcher les retours ou l'exclusion des immigrés de France. En revanche, sur l'entrée, on en entend un peu moins parler. C'est tous ces dispositifs qui sont mis pour bloquer l'arrivée des immigrés en France. Ce qui m'a surpris dans le livre, parce que je connais pas du tout cette histoire, c'est que dans le fond, c'est un phénomène relativement nouveau. On a créé des corps de police dans les années 70 qui n'existaient pas auparavant et qui passent peut-être un peu plus inaperçus aujourd'hui où on maintient l'immigration en dehors des frontières. Et là, le rôle des militants est un peu plus difficile à mettre en place.
Alors ça, effectivement, c'est un mouvement qui est très important et sur lequel il faut insister. C'est que si on reprend la période de 45 à 75, c'est une période où l'essentiel du contrôle de l'immigration se fait sur le séjour et sur l'admission au séjour. Et donc, c'est le corps des agents préfectoraux qui est au cœur de ce dispositif de contrôle. Et petit à petit, alors à partir du moment où on décide de suspendre l'immigration, de fermer les frontières, apparaît des nouveaux corps de police, des corps d'agents comme la police de l'air et des frontières, qui existaient auparavant mais qui avaient un rôle très très marginal, hein, de contrôle des touristes et de surveillance des éventuels terroristes. Petit à petit, la police de l'air et des frontières va être investie de nouvelles missions et en particulier va se réapproprier cette mission du contrôle des frontières et de la maîtrise des flux. Et ce que j'essaye de décrire dans le livre, c'est un processus de conversion de l'ensemble des agents à cette question, cet objectif de la maîtrise des flux. Et c'est vrai que le mouvement que vous décrivez est extrêmement important et il faut le souligner, c'est le fait que progressivement, on va avoir une forme de mise à distance du contrôle de l'immigration où durant les années 70, alors on a cette réforme de la police de l'air et des frontières dont je parle dans le livre qui est très importante, hein, qui entre en vigueur en 69 et qui va se doubler de recrutement massif dans le corps de la police de l'air et des frontières, et donc où la question des frontières et en particulier des frontières aéroportuaires, des aéroports, dans les ports et les aéroports, va devenir cruciale dans la gestion de l'immigration. Et puis on pourrait dire que au milieu des années 80, on entre encore dans une nouvelle période où c'est plus seulement les frontières nationales qui deviennent le centre de gravité de la politique d'immigration. C'est aussi de plus en plus les contrôles qui sont opérés à distance dans les pays d'origine, dans les pays de départ, par justement des formes de délégation d'activités de police. Et là, on en a des exemples très récents dans l'actualité, mais en fait, c'est un mouvement qui est beaucoup plus ancien et qui correspond effectivement à une mise à distance, on pourrait dire, du contrôle de l'immigration. Alors là, pour le coup, qui pose des problèmes assez difficile à résoudre du point de vue du respect de l'état de droit et du respect des droits des étrangers, parce que justement cette distance et cet éloignement du territoire national permettent de transgresser les conventions internationales et rend extrêmement difficile la tâche des militants qui entendent défendre la protection des droits des étrangers, parce que quand les étrangers sont à Malte à Ceuta ou dans des villes très éloignées comme ça, c'est évidemment beaucoup plus difficile de veiller à ce que l'administration respecte le droit. Et même d'une manière plus générale, on pourrait dire que désormais c'est surtout les consulats en fait qui sont devenus je dirais pas le centre de gravité, mais en tout cas un point très important du dispositif de contrôle migratoire. Et aujourd'hui, bah, pour les mêmes raisons, c'est extrêmement difficile de savoir ce qui se passe dans les consulats. Et on pourrait dire que le huis clos, enfin, je pense qu'il y a une homologie à faire entre ce que je décris sur cette forme de huis clos entre l'administration et les étrangers pendant ces années de 45 à 75. Je pense que, on peut trouver des phénomènes similaires et extrêmement comparables avec ce qui se passe aujourd'hui dans les consulats, c'est-à-dire la manière dont les visas sont attribués, le pouvoir discrétionnaire dont est investi l'administration consulaire et les zones d'incertitude, de flou et les bavures éventuellement que ce pouvoir peut engendrer dans une configuration où là on a une forme de huis clos entre les étrangers et l'administration consulaire.
Et tout ça contraste assez fortement avec l'époque où on installait des bureaux de recrutement dans le sud de l'Europe pour recruter une main-d'œuvre pour les secteurs industriels, le bâtiment ou l'agriculture.
Oui, bien sûr, puisque là, effectivement, il s'agit essentiellement d'empêcher les gens d'arriver sur le territoire. Voilà, encore que ces bureaux de recrutement de l'ONI, ils ont jamais, enfin, fonctionné à plein, en ce sens que ils ont toujours été plus ou moins court-circuités par des employeurs qui ont toujours préféré choisir leur main d'œuvre plutôt que de se la faire imposer par l'administration. Et donc, c'est vrai que ces bureaux ont existé, ils ont eu une importance certaine, mais assez vite très relative parce que les employeurs n'aiment pas en général ils préfèrent choisir leur main d'œuvre et la sélectionner selon leurs propres critères et le dispositif étatique de recrutement de l'immigration il a assez vite été relégué au second plan en fait.